Paul, Céline, Eva, André, Kamel, Solange? Est-ce que connaître chacun de ces individus, même intimement, permettrait de comprendre comment fonctionne une ville, une société, un pays? Non, bien sûr. Il en va de même en biologie. On connaît maintenant les propriétés de la myriade de composants qui interagissent au sein d'un organisme vivant. Mais on ignore encore l'essentiel des règles qui régissent son fonctionnement. Pour appréhender cette question très actuelle, nous nous sommes rendus dans trois laboratoires de biologie qui étudient chacun le vivant selon une nouvelle approche, celle de la complexité des interactions biologiques. À chaque seconde, dans chaque être vivant, des milliards de constituants interagissent, obéissant à des comportements à première vue chaotiques et imprévisibles. Et pourtant, à la fin, il y a une cellule, un organe, un organisme qui fonctionne de façon cohérente. Il en va ainsi des tissus épithéliaux dont Thomas Lecuit et ses collègues étudient la croissance régulière, avec l'ambition de comprendre les lois qui gouvernent les propriétés de l'ensemble et de passer ainsi du descriptif au prédictif.
Vous avez des cellules qui vont migrer. Dans quelle direction migrent-elles? À quelle vitesse migrent-elles? Comment ces déplacements collectifs sont importants pour la formation d'organismes? D'autres cellules vont changer de forme. D'autres cellules vont se diviser. Chaque cellule sera différente d'une autre cellule. Il y a une espèce de variabilité permise par le système, mais qui ne pose aucun problème au comportement régulier de l'ensemble du tissu. Donc, par exemple, vous voulez comprendre comment le tissu peut s'allonger de façon très régulière, alors que les cellules ne vont pas faire leur déformation de façon synchrone, elles vont le faire de façon chacune avec son propre rythme. Et pour répondre à ces questions-là, un biologiste tout seul va être un peu démuni, parce qu'il y a une multiplicité d'approches, à la fois de perturbations, d'analyse et aussi de modélisation pour s'assurer que l'on comprend bien l'émergence de fonctions régulières à partir d'interactions moléculaires.
Grâce à des outils d'observation toujours plus sophistiqués et à l'expertise d'ingénieurs, de mathématiciens, d'informaticiens et de physiciens, Thomas Lecuit et son équipe comprennent peu à peu les fondements mécaniques du développement des tissus vivants. Mais à chaque nouvelle avancée, de nouvelles questions ne risquent-elles pas de se poser, toujours plus complexes?
Cette complexité immense des systèmes vivants, le chercheur se doit de la réduire, identifier, cerner finalement les comportements simples, réguliers, de trouver la simplicité dans la complexité. Ça, c'est la tâche du chercheur. Parce que si vous voulez, à la fin, vous ne voulez pas que l'explication soit complexe. Alors certaines choses sont un peu complexes, mais si vous voyez l'histoire des sciences, à partir de phénomènes extraordinairement complexes, finalement, à la fin, on arrivait à avoir des explications assez simples, et parfois très simples.
De la même façon qu'un tissu dépend des interactions entre ses cellules, l'expression du génome d'un être vivant dépend de la coordination des milliers de gènes qui le composent. 60 ans après la découverte de la structure en double hélice de l'ADN, on connaît l'ordre, la place exacte et souvent la fonction des 20 000 gènes du génome humain. Mais on commence seulement à saisir la complexité des différents mécanismes qui régulent leur expression. C'est en étudiant l'organisation dans l'espace du filament d'ADN qu'Edith Heard et son équipe ont mis à jour le principe de régulation de l'un d'entre eux. Le gène existe.
On a réalisé que le génome n'était pas organisé comme on imaginait, mais qu'il y avait des domaines d'interaction, comme des pelotes d'ADN quelque part, où tout était en train d'interagir, et notre gène était à l'intérieur d'une de ces pelotes. Donc les éléments régulateurs qui peuvent se trouver très très loin d'un gène sont quand même confinés dans l'espace et vont quand même trouver le bon gène au bon moment.
Parce qu'elle concerne la régulation d'une multitude de gènes, aujourd'hui de nombreux chercheurs à travers le monde se penchent sur cette découverte. Elle est le fruit d'une nouvelle approche qui consiste à observer les composants du vivant qui interagissent, puis à créer des modèles et à les tester afin de comprendre le phénomène étudié.
Actuellement, en biologie, c'est un moment très très excitant parce que depuis des années, nous cherchons à comprendre comment le génome est organisé, comment les gènes sont activés ou inactivés au cours du développement. Maintenant, on commence à voir les informations de cette organisation du génome, de son expression de manière très fine et assez quantitative. Et donc, on peut maintenant travailler avec des physiciens, des mathématiciens. Et donc, la recherche biologique devient vraiment interdisciplinaire.
S'il est un domaine de la biologie qui se heurte à la notion de complexité, c'est bien celui des neurosciences. Ici, comme ailleurs, depuis le neurone jusqu'au cerveau, on a cessé de dresser le catalogue des propriétés et des fonctions de cet organe extraordinaire. On connaît depuis longtemps la région du langage. On sait où se loge chacun de nos cinq sens, où s'élaborent les mouvements, où se stockent les souvenirs, où naissent les sentiments. trouver où se niche la conscience s'est révélée plus complexe, puisqu'elle est à la fois nulle part et partout.
Il n'y a pas une région du cerveau qui serait la région de la conscience. Donc il n'y a pas la région de la conscience. Mais ce qui se passe, c'est que les différentes régions qui composent notre cerveau, celles qui sont à l'avant du cerveau, derrière le front, on appelle ça le cortex préfrontal ou frontal, le cortex occipital, le cortex pariétal, temporal, toutes les différentes régions de notre cerveau, lorsque nous sommes conscients, elles se mettent comme une sorte d'assemblée à converser de manière cohérente, de manière complexe, c'est-à-dire que ce qui est échangé est un message riche, intelligent, complexe, et de manière coordonnée, c'est-à-dire que tout le monde ne parle pas en même temps, c'est pas un brouhaha, c'est une intégration, une conversation à plusieurs, et cette conversation, lorsqu'on l'observe, et on développe des outils qui nous permettent au lit du malade, chez un sujet donné, de pouvoir deviner si cette conversation est présente ou pas, eh bien dès qu'elle est présente, cela signifie que le malade et l'individu, quel qu'il soit, est conscient.
Cette découverte fondamentale trouve sa source dans les progrès phénoménaux des techniques d'imagerie et dans le fait qu'ici, comme ailleurs, les neuroscientifiques ne travaillent plus seuls.
Dans notre discipline, on est peut-être à une période qu'on pourrait comparer à la Renaissance. Autrement dit, on va avoir une éclosion de savoir, souvent qui viennent de gens de milieux très différents. Dans mon laboratoire, comme dans beaucoup de laboratoires de mes collègues, vous allez trouver des biologistes, vous allez trouver des médecins, vous allez trouver des physiciens, des mathématiciens, des linguistes, des psychologues, etc. Même parfois des musicologues. Donc, parce qu'on a une convergence de plusieurs savoirs qui commencent à voir qu'ils peuvent faire ensemble quelque chose autour de l'activité cérébrale qui transparaît dans toutes les activités de l'homme. Donc de ce point de vue-là, on est au tout début de la description et du décryptage de cette énorme complexité cérébrale dont on commence à peine à voir certaines facettes.
La complexité. Voilà la grande question à laquelle s'affronte aujourd'hui l'ensemble des laboratoires de biologie en France et dans le monde. Car on sait désormais que depuis la plus élémentaire des molécules jusqu'au plus vaste des écosystèmes, tout ce qui est vivant sur notre planète interagit. Et que seule une vision intégrant l'ensemble de ces interactions à toutes les échelles de temps et d'espace nous révélera les règles qui assurent la cohérence du fonctionnement du monde vivant, de notre monde.